Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Fabrice Denis, professeur, chercheur associé au CNRS, expert en IA et médecine de longévité. Stéphane Résimont, médecin spécialisé en médecine intégrative, expert en hormonologie et micronutrition. Le Nutri Talk Gala, samedi 13 juin. À l'Élysée Biarritz, à Paris. Programme complet, intervenants et renseignements sur nutritalkgala.fr.
Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans.
La chronique nutraceutique, Angélique Houlbert sur Nutri Radio.
Bonjour Angélique.
Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous.
Angélique Coulbert sur Nutri Radio comme chaque mardi. Ça va, vous allez bien, en pleine forme, prête pour cette masterclass qui arrive?
Oui, je suis prête, comme d'habitude. Et vous, c'est surtout ça?
Oui, bah écoutez, moi j'essaie de suivre, hein, même sur antenne,
bon,
vous me drivez bien. On remercie notre partenaire tiens, pour ces émissions. Émissions qui vous sont offertes gratuitement, mais nous avons un partenaire sans qui nous ne pourrions pas faire ça. C'est le laboratoire Vital Plus, laboratoire final, j'hésitais parce que j'allais dire l'excellent laboratoire, j'étais parti sur le, du coup voilà, laboratoire Vital Plus, laboratoire familial depuis plus de 30 ans qui fabrique des compléments alimentaires de qualité, mesdames, messieurs, et merci à vous de vous abonner, ça nous donne un peu de, voilà, ça nous permet de produire toujours des contenus intéressants pour vous, ça nous donne un peu plus de force, et comme dirait l'autre, c'est que du love, donc merci de vous abonner et de mettre un petit like, un petit avis sur ces podcasts, si vous nous écoutez en podcast, hein, si vous êtes sur le live, c'est compliqué, mais si vous êtes en podcast, eh bien, mettez une petite note, un petit commentaire. Ce serait bien de laisser 5 étoiles et de vous abonner, par exemple. Merci. On parle aujourd'hui, donc, on va plonger tiens, bam, dans l'infiniment petit à la découverte d'une bactérie star qui bouscule l'univers du bien-être et de la longévité métabolique. La Carmancia, d'où sort-elle exactement? Est-ce une nouveauté surgie de nulle part ou une vieille connaissance que la science redécouvre? Et pourquoi elle suscite autant d'enthousiasme? Parce que c'est le cas. Angélique, est-ce que vous pouvez nous éclairer?
Oui, Acarmancia, son nom exact, c'est Acarmancia muciniphylla. On va l'appeler Acarmancia, ça va être beaucoup plus simple. Et non, elle n'est pas nouvelle parce qu'elle a été identifiée pour la première fois en 2004 par deux chercheurs. Et faut savoir que chez un adulte en bonne santé, elle représente à peu près entre 1 et 5% de la population bactérienne intestinale. Mais c'est pas un énième probiotique, hein, parce que je vois arriver là. C'est ce qu'on appelle un biotique de nouvelle génération, qui a été validé par l'EFSA. Donc l'EFSA, vous savez, c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments, donc validé en 2021. Et ce qui est quand même assez rare pour ce type de micro-organisme.
Alors qu'est-ce qui la rend unique?
Alors, contrairement aux autres bactéries dont on parle souvent, les lactobacilles, les bifidobactéries, hein, qui se baladent un petit peu et qui sont des visiteurs temporaires, eh ben celle-ci, elle est sédentaire. Elle vit exclusivement dans la couche de mucus qui tapisse notre paroi intestinale. C'est ce qu'on appelle une bactérie anaérobie stricte. En gros, ça veut dire que l'oxygène est vraiment un poison mortel pour elle, quoi. Donc elle préfère le petit environnement protégé et sombre de notre mucus, hein. Voilà, c'est pour ça que ça la rend un petit peu unique. Donc c'est pas une simple passagère, c'est une véritable gardienne du château. C'est elle qui va gérer l'infrastructure, quoi. Et si son taux chute, la barrière intestinale devient poreuse et bien évidemment, bah là, c'est la porte ouverte à l'inflammation systémique, vous savez, l'inflammation de Bagrade, et puis à des déséquilibres métaboliques, quoi.
La gardienne du château, on se croirait dans un épisode de, je sais pas, Game of Thrones, magnifique. Concrètement, elle fait quoi dans l'ombre de nos intestins?
Eh ben, en gros, c'est la jardinière paysagiste de notre intestin.
Hein. Ah bah
je trouve que c'est pas mal parce qu'elle utilise des enzymes qui sont très spécialisées, qu'on appelle les mucinases. Vous savez, tout ce qui se termine en ase, ce sont des enzymes. Donc, ces mucinases pour fermenter la mucine, hein, ça, c'est qui est le composant principal de notre mucus, quoi.
Donc une jardinière qui mange la clôture. Si elle dégrade le mucus, elle détruit notre protection, non ?
Alors, c'est là que la biologie est quand même géniale, parce que en grignotant un petit peu cette, entre guillemets, hein, cette mucine, elle va forcer certaines cellules de nos intestins, qu'on appelle les cellules calciformes, à produire davantage de mucine. Donc ça, c'est en gros, je vous disais que c'était une jardinière paysagiste, parce que c'est comme tailler une haie pour qu'elle repousse beaucoup plus dense, beaucoup plus vigoureuse. Voilà. Et ça, c'est ce renouvellement, c'est ça qui est la clé d'une bonne barrière intestinale étanche, hein, comme, donc et pas poreuse, comme on disait tout à l'heure. Mais c'est pas tout, parce que en fermentant cette mucine, elle va aussi aller fabriquer des petits trésors dont on parle souvent, qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, les fameuses AGCC. Et elle va plutôt produire de l'acétate et du propionate. Pas trop de butyrate, mais acétate et propionate. Et ça sert de carburant, et puis ça sert de messager, et puis on sait qu'elle va même aussi produire de la vitamine K2, quoi. Donc voilà, elle est top.
Alors j'ai lu quelque chose qui m'interpelle personnellement, je me dis que ce serait bien aussi que ce soit pareil pour nous, puisque apparemment elle serait plus efficace quand elle est morte. Est-ce que pour nous, ce serait bien que ce soit pareil pour nous?
Oui, non, c'est pas un gag de scientifique. Effectivement, ça, c'est la découverte qui a un petit peu tout changé. Et on appelle ça une bactérie morte, comme ça. Hein. On appelle ça un postbiotique, c'est plus joli. Donc, pour la rendre plus stable, c'est pour la rendre plus efficace, on lui fait subir un petit traitement thermique, on la chauffe à 70 degrés pendant 30 minutes. En gros, on la pasteurise, quoi.
Très bien. J'étais en train de me dire, faudrait... une insulte un peu déguisée. Ouais, toi, t'es un peu comme mon petit acarmentia. T'es plus efficace quand t'es mort. Non, bref.
Ah oui, on peut c'est... faire une blague comme ça, en Nutricto Gala, si vous voulez.
Je pense que c'est très, oui, très hard en vrai. Mais bon, si quelqu'un vous dit vous êtes un peu comme mon petit acarmentia, méfiez-vous, c'est pas un compliment.
Non.
Pourquoi tuer la jardinière ? Une jardinière morte, ça taille plus les, Angélique ?
Eh ben voilà, détrompez-vous, parce que dans le cas d'acarmentia, donc la forme pasteurisée est visiblement beaucoup plus efficace et c'est un véritable concentré de signaux. On a une étude clinique majeure qui a été faite en 2019, qui a prouvé que la forme pasteurisée était vraiment nettement supérieure à la forme vivante pour améliorer notamment tous les facteurs de risque cardio-métabolique.
Alors comment c'est possible ?
Alors, c'est une question de structure. En fait, la pasteurisation, comme je disais là, elle va aller figer la bactérie et figer Acarmentia, et elle va plutôt rendre une protéine spécifique qui est sur sa membrane externe, qu'on appelle AMUC, A-M-U-C 1100, voilà, elle s'appelle comme ça. Donc, elle rend cette protéine beaucoup plus stable, beaucoup plus accessible. Et en fait, c'est cette protéine qui va parler, entre guillemets, à nos cellules, qui va activer certaines voies antioxydantes, qui va stimuler nos propres enzymes antioxydantes, comme la SOD, la superoxydismutase. Donc en gros, au lieu d'avoir une bactérie vivante qui s'occupe de sa propre survie, bah, vous allez avoir un messager moléculaire qui va directement se brancher sur nos récepteurs intestinaux, quoi. Donc ça permet en gros une meilleure transmission des signaux. C'est beaucoup plus net, et donc transmission des signaux vers le foie, vers nos graisses, vers le cerveau, voilà. Donc
émission d'intérêt sur la carmentia aujourd'hui, franchement on boit vos paroles, Angélique. On va marquer une toute petite pause parce qu'on va continuer évidemment d'aller fouiller un peu plus sur cette acarmentia, en savoir plus, parce que j'imagine qu'il intervient dans beaucoup de choses concernant notre santé, évidemment. On marque une pause et c'est juste après ceci.
Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. Et puis, il y a Vital Plus, une entreprise familiale française qui formule et fabrique ses compléments nutritionnels depuis 34 ans. Un savoir-faire unique pour des compléments alimentaires riches en nutriments et extraits de plantes. Des produits naturels et bio d'une qualité exceptionnelle pour une consommation en toute confiance. Vital Plus, votre bien-être mérite le meilleur. Disponible en pharmacie, magasin bio et diététique.
La chronique nutraceutique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio.
Question pour un champion. Qu'est-ce qui est plus efficace qui est mort que vivant ? La Carmancia, bonne réponse, vous avez gagné un annuaire. Bien, bon, on parle de la Carmancia avec Angélique Houlbert aujourd'hui. Est-ce que vous nous avez dit quand même, juste avant la pause, alors si vous venez d'arriver, évidemment prenez l'émission en route hein, sur le live, elle sera dispo en podcast juste à l'issue de cette diffusion. Et si vous êtes en podcast, on récapitule pas trop puisque c'est dans la continuité de ce que vous êtes en train d'écouter. Donc, on a vu que on fige le messager pour qu'il ne se perde pas en route. Donc ça quand même, c'est quand même incroyable. Et ce message, qu'est-ce qu'il dit à notre corps?
Alors, il faut vous dire qu'à Carmancia, c'est un véritable chef d'orchestre du métabolisme. Donc on a remarqué une chose assez simple, les personnes obèses, les personnes qui sont diabétiques de type 2 manquent cruellement d'acarmancia dans leur microbiote. Et si on leur donne, donc sous forme de suppléments, les chercheurs ont vu que ça permettait de réduire le tour de taille et que ça permettait de réduire le pourcentage de masse grasse et aussi l'appétit, parce que ça augmenterait le taux de GLP-1 hein, dont on parle longtemps, donc depuis longtemps. Donc ça, c'est une étude qui a été faite très récemment, c'était en 2025.
Le chef d'orchestre, vous avez dit? Ouais, j'ai l'impression que à chaque fois, excusez-moi, mais pardon, je vois plein de titres sur des actifs, à chaque fois c'est le chef d'orchestre. Il y a combien de chefs d'orchestre? Parce que plusieurs chefs d'orchestre, ça fait une mauvaise symphonie.
C'est pour ça. Oui. Ouais.
Non, mais bon. Et pour le diabète, alors?
Ouais, elle régule beaucoup de choses, donc effectivement, mais oui, c'est sûr. Il y a beaucoup, parce qu'on a plusieurs. Vous avez raison de dire ça, mais il n'empêche que oui, il nous faut parfois plusieurs chefs d'orchestre pour
plusieurs concerts différents, parce qu'il y a plusieurs salles. Chaque salle, un chef d'orchestre.
Oui, vous me demandiez pour le diabète. Les études, elles ont montré que. Quand on prend acarmancia, donc pasteurisé, j'insiste bien là-dessus, ça améliorait de 28% la sensibilité des cellules à l'insuline et ça permettait de réduire aussi l'insulinémie de 34%. C'est beaucoup, hein. C'est quelque chose, sont des chiffres assez importants. Et puis il y a une étude clinique qui a été publiée en 2025 qui a montré que chez les personnes qui avaient un faible taux initial d'acarmancia, quand on les supplémentait, ça faisait chuter la fameuse hémoglobine glycée, hein, vous savez, je vous en parle souvent, l'HbA1c, qui est quand même le marqueur clé du diabète. En fait, faut comprendre qu'acarmancia, elle va diminuer ce qu'on appelle l'endotoxémie métabolique. En fait, comme elle renforce la barrière intestinale, elle va empêcher des petits fragments de bactéries toxiques qu'on appelle les LPS de passer dans le sang. Parce que ces toxiques-là, ils sont responsables de l'inflammation de bas grade et ça perturbe tout notre métabolisme vraiment au sens large. Donc, acarmancia, elle ferme la porte. Hein, elle ferme la porte à ces fragments de bactéries toxiques. Donc, elle coupe l'incendie métabolique à la source. C'est ça qu'il faut comprendre. Quoi.
Vous parlez de signaux qui vont loin. Est-ce que ça peut aussi aider ceux qui ont un foie un peu fatigué? On parle beaucoup de la maladie du foie gras en ce moment.
Oui, tout à fait. Maladie du foie gras, c'est ce qu'on appelle la NAFLD ou MASLD, M pour métabolique. Hein. Donc, le foie, de toute façon, il est relié à l'intestin par la veine porte. Hein. Donc ça, c'est une espèce d'autoroute directe. Et tout ce qui va fuir, entre guillemets aussi, hein, de l'intestin, ça va finir dans le foie. Donc si votre barrière intestinale, c'est une vraie passoire, votre foie va s'encrasser de toxines toxiques. Hein. Et acarmancia joue les petits douaniers. Et puis, parce qu'il y a une étude qui a montré, ça c'était 2024, que justement, quand on avait beaucoup d'acarmancia, c'était directement relié à une baisse des gamma-GT. Gamma-GT, vous savez, sont les gamma-glutamyltransférases, ce sont des enzymes qui alertent.
Vous savez, ce sont les gamma-glutamyltransférases. Oui, bien sûr, Angélique, je sais.
Ce sont des enzymes. Ce sont des enzymes qui alertent sur le stress hépatique. Et in vivo aussi, il y a aussi des études qui montrent que ça permet de faire chuter d'autres enzymes qu'on appelle ASAT, ALAT. Hein. Donc, en gros, ce que vous devez retenir, c'est que le foie, il décompresse parce qu'il est plus agressé par les fuites de l'intestin. Voilà. Mais ça permet de baisser les enzymes gamma-GT, ASAT, ALAT, qui sont des marqueurs de souffrance hépatique. Quoi.
Et vous m'avez dit hors antenne, non seulement le foie, mais aussi les poumons. Donc, on a un axe intestin-poumon. C'est un peu loin géographiquement quand même.
Oui, on a un axe intestin poumon. Ça, c'est une étude clinique de 2024 qui avait montré que la prise d'Acarmentia améliorait l'essoufflement, améliorait la toux. Donc, de toute façon, c'est logique. En calmant l'inflammation dans l'intestin, on sait aussi, voilà, on évite le passage de certains toxiques, hein, justement, et on va réduire l'hyper-réactivité hein, des bronches. Donc oui, hein, c'est la preuve que, voilà, que l'intestin est bien un poste de pilotage, un chef d'orchestre aussi, hein, non, un poste de pilotage, c'est pas mal, voilà, c'est ça, de tout notre corps. Mais, ouais. Bah oui, parce qu'on a des organes ou des qui sont vraiment ouais, cruciaux, quoi.
Bon, c'est un véritable couteau suisse. Est-ce que cette bactérie, enfin votre bactérie donc, je vais l'appeler votre bactérie, peut aussi m'aider pour préserver le cerveau?
Ouais, alors ça, on touche un petit peu au futur de la nutrition, là, hein, parce que Acarmentia, elle est maintenant considérée comme un marqueur de la longévité, parce qu'elle va préserver notamment certaines structures et notamment côté cerveau, elle va agir sur l'axe là, intestin, cerveau, puisqu'elle va, elle va moduler la sérotonine. Vous savez, ça, c'est l'hormone de l'humeur. Mais le plus impressionnant, et bon, là, on est encore au stade de l'in vivo, mais c'est quand même intéressant. Puisqu'on a des revues de 2025, là, des revues d'études qui suggéreraient, voilà, je fais attention à ce que j'emploie comme, comme conjugaison, ça, elle pourrait être intéressante en cas de maladie neurodégénérative, donc notamment Parkinson, notamment Alzheimer, mais c'est assez normal, puisqu'elle protège non seulement notre barrière intestinale, mais elle protégerait aussi la barrière hémato-encéphalique, vous savez, c'est cette fameuse barrière qui protège le cerveau du reste du corps, voilà, ce qui éviterait que les fameuses toxines toxiques là, n'atteignent les neurones. Je sens que vous allez me sortir Pollux.
Pas encore. Il veut sortir. Depuis tout à l'heure, il donne des grands coups de pied dans la porte.
Parce que là...
On va le sortir, mais j'ai essayé de le sortir un petit peu moins par émission, parce qu'après, il devient exigeant, vous savez. Il faut le calmer un petit peu. On va faire une synthèse à la fin. Mais bon, j'ai envie quand même de découvrir un tout petit peu plus, parce que je me dis que là, on pousse. Est-ce que, par exemple, pour les muscles, ça peut être intéressant, le muscle d'un sportif?
Ouais. Alors, pas forcément pour les sportifs, plutôt pour les seniors. Il y a une étude clinique, hein, 2024, qui a été réalisée sur une centaine de seniors, qui a montré que quand on prenait Acarmentia, justement, ça permettait d'augmenter la force musculaire, puisque ça permet d'augmenter le taux d'une protéine, la follistatine, et elle bloque un frein naturel de la croissance musculaire, hein, elle s'appelle la myostatine, donc oui, c'est pas mal. Donc, globalement, ça aiderait à combattre la sarcopénie. Vous savez, ça, c'est la fonte de musculaire liée à l'âge. Donc, oui, pas forcément chez les sportifs, mais chez les seniors, oui. Et puis, musculaire, mais aussi osseux, parce qu'on se rend compte que ça, ce sont des études in vivo, mais Acarmentia, elle empêcherait l'organisme de s'auto-dégrader, donc avec l'âge, notamment au niveau osseux, parce que ça permettrait de jouer sur... Certains, vous savez, dans l'os, on a un remodelage osseux constant avec des ostéoblastes qui bâtissent, des ostéoclastes qui creusent. Donc voilà, ça pourrait jouer sur ce remodelage osseux. Donc, mais on est encore au stade de l'in vivo.
Bon, alors, évidemment, là maintenant, on est tous convaincus de l'intérêt de l'Acarmentia si on ne le connaissait pas encore. Et concrètement, comment on fait pour nourrir les petites Acarmentia dans nos intestins?
Ouais, bah faut leur donner leur carburant préféré, et elles adorent quand vous avez une alimentation qui est riche en fibres et qui est pauvre en sucre. Mais le secret, ce sont les polyphénols, et ça c'est une étude de 2024 qui a montré que les anthocyanes, par exemple des fruits rouges, myrtilles, framboises, raisins, là, les flavanols de thé vert ou de cacao, bah boostent son activité, boostent sa présence, quoi. Donc voilà concrètement comment vous pouvez donner à manger à Acarmentia.
Et est-ce qu'on peut se complémenter? Et on le choisit comment s'il existe un complément alimentaire?
Ouais. Si vous voulez vraiment des bénéfices au niveau métabolique, au niveau hépatique et aussi au niveau donc intestinaux au sens large, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais on utilise aussi Acarmentia en cas de maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Là, il faut entre 20 à 30 milliards de souches par jour, donc dans votre gélule. Et puis vous partez pour une cure de 1 à 3 mois, quoi. Hein. C'est globalement ce qui est fait dans les études cliniques, hein, pour les compléments.
Très bien. Est-ce que tout le monde peut en prendre? C'est sans danger?
Ouais, c'est assez sûr pour la grande majorité. L'EFSA a quand même fixé des limites de sécurité, mais qui sont assez larges. Donc, jusqu'à, il n'y a pas de souci, jusqu'à 34 milliards exactement de cellules par jour pour un adulte qui est en bonne santé. Pour les ados, ils ont même ados de 12 à 18 ans. Là, l'EFSA a dit entre 21 et 30, et 30 milliards max. En revanche, ici, prudence, toujours pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, la sécurité n'a pas été encore formellement établie. Donc, voilà, pas chez la femme enceinte et pas chez la femme allaitante.
Hein, ouais, précaution habituelle, on va dire.
Bah oui, voilà, c'est assez classique, j'ai envie de dire. Oui.
Donc, ma gélule d'acarmentia avec un petit bol de myrtille et du thé vert, ça c'est le combo gagnant.
Eh ben ouais, effectivement, ça c'est parfait. Et puis, quand vous combinez tout ça avec une supplémentation, des bons aliments, ça c'est au moins vous réinitialisez tout votre métabolisme. Donc c'est ça qu'on appelle une véritable approche fonctionnelle, alimentation et complémentation. Et là vous faites un super combo gagnant. Ouais.
Et alors quand même, parce que moi bon. Ça, c'est évidemment un actif qu'on a envie de mettre dans notre trousse nutraceutique immédiatement, mais vous avez insisté sur un acarmentia pasteurisé. Est-ce que c'est vraiment la seule forme à favoriser? Il faut vraiment. Est-ce que c'est la seule forme qui est vendue? Ou il y en a d'autres?
Globalement, c'est ce que vous allez retrouver. Hein. Ouais. C'est ce que vous allez retrouver dans les compléments. Et c'était surtout pour vous avertir que c'est pas grave si elle est morte. C'est pas gênant.
C'est pas grave si elle est morte. Ne sortez pas cette phrase du contexte.
Non. Mais on se rend compte. Oui, et il n'y a pas qu'à Carmentia. On se rend compte quand même, là, ça va, je ne cesse de lire des choses dessus, sur d'autres biotiques. Donc notamment des post-biotiques, hein, donc des souches qui sont pasteurisées, on va dire pasteurisées, c'est plus simple, et on se rend compte qu'elles ont autant d'activités, voire parfois d'autres activités. Donc ouais, ça c'est le futur, ça. Hein, ça
c'est ce que je dis, moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Vous savez, quand papa il va mourir, il sera encore meilleur. Non, mais bon, en tout cas, moi, est-ce qu'on peut en prendre? Alors la question, est-ce qu'on peut en prendre, choisir d'en prendre sans avoir de symptômes particuliers, juste parce qu'on est dans une espèce de prévention et on se dit, tiens, on le prend, est-ce qu'il faut faire des examens avant, quel type d'analyse pour savoir si on peut en prendre?
Alors,
ou pas,
vous pouvez en prendre, puisque de toute façon on a, globalement nos intestins sont poreux, j'utilise ce mot-là parce que ça parle à tout le monde,
hein.
mais parce que notre alimentation n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on devrait consommer tous les jours. Et puis quand on consomme des aliments qui sont ultra transformés, on peut aussi consommer en même temps des additifs, et des additifs qui perturbent, ça on le sait maintenant, cette étanchéité de la barrière intestinale. Donc c'est pour ça que je vous disais manger un petit peu plus. Une alimentation plus riche en fibres, plus pauvre en sucre, et une alimentation beaucoup plus brute. Et donc, à partir de là, effectivement, on met toutes les chances de notre côté. Mais oui, c'est du préventif, bien évidemment. Et pour resserrer ces fameuses jonctions qui sont dans nos intestins. Donc, oui.
Très bien, on peut en
mais prendre. Mais pas chez les femmes enceintes et pas chez les femmes allaitantes. Voilà. On est d'accord.
Et on rappelle tout de même que les informations que vous a données et les études qu'elle a mis en valeur, peut-être qu'il y a d'autres études qui indiquent le contraire, et si c'est le cas et que vous en avez, n'hésitez pas à nous les remonter. Si d'autres apparaissent, Angélique se fera évidemment un devoir de les mettre en avant tout autant, et que ces informations ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
Salut, moi c'est Pollux. Alors, n'oubliez pas que ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical ni à un traitement. Consultez votre médecin généraliste.
Merci beaucoup Angélique, on va se retrouver la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine, à bientôt Fabrice.
Le retour de la musique c'est tout de suite sur Nutri Radio, et cette émission elle est déjà disponible en podcast.
La chronique Nutraceutique, Angélique Houlbert sur Nutri Radio.